Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Romilda Ferrotto.
Il aime répéter que la joie de l'Évangile sauvera le monde. Le pape François fêtera ses 77 ans ce mardi. Les fidèles sont invités à prier le Seigneur de lui donner la force d'accompagner l'Église dans son chemin. Le débat très délicat sur la légalisation de l'euthanasie relancé en France. Un panel de citoyens a donné son avis. Il estime que la possibilité de se suicider par assistance médicale constitue un droit légitime du patient en fin de vie ou souffrant d'une pathologie irréversible. Triste Noël en perspective pour les chrétiens de Syrie. Selon l'ONU, la moitié de la population vit dans l'insécurité alimentaire et près d'un tiers a besoin d'une aide alimentaire d'urgence. Au Liban, la Caritas a prévu des célébrations festive pour les réfugiés. Ce mardi 17 décembre, le pape François fêtera ses 77 ans. Né en 1936 à Buenos Aires, en Argentine, ce fils d'immigrés italiens a été provincial des jésuites d'Argentine, professeur, recteur, curé de paroisse, archevêque de Buenos Aires, puis président de la Conférence épiscopale d'Argentine. Il est devenu pape le 13 mars 2013. Sa fraîcheur dans la simplicité évangélique, ses nombreux gestes inédits et son style de gouvernance inattendu suscitent l'enthousiasme. Sa vision de l'Église, il l'a dévoilée au fil des mois, sans rien abandonner de l'Évangile. Xavier Sartre.
Son 77e anniversaire, le Saint-Père l'a fêté avec deux jours d'avance, samedi, avec les bénévoles et les enfants de l'Institut Sainte-Marthe du Vatican, qui lui ont réservé un accueil particulièrement chaleureux. Depuis son élection le 13 mars dernier, cet homme simple, joyeux, accessible, fascine le monde entier. Son action, guidée par la compassion et par un attachement indéfectible au message du Christ, est depuis toujours entièrement tournée vers les plus pauvres, les blessés sociaux, vers ceux que le monde considère comme insignifiants ou qui sont défigurés par la misère. L'amour de Dieu et du prochain, le don de soi et la prière, la fraternité et la solidarité sont ses maîtres mots. L'exigence évangélique, la justice sociale et la non-violence sont les piliers de sa pastorale. Selon ses biographes et les témoignages de ses proches, cette personnalité plus complexe qu'il n'y paraît a pourtant connu autant de succès que de traversées du désert. Pendant la dictature militaire en Argentine, au sein de la Compagnie de Jésus à laquelle il appartient, dans ses rapports avec le pouvoir politique. Mais depuis des mois, cet homme étonnant qui a choisi très tôt de devenir médecin des âmes s'efforce de guider la barque de pierre dans le monde postmoderne et de l'assainir sur le chemin de sa renaissance. Ce pape, qui prend du temps pour discerner, veut renforcer la synodalité d'une église qu'il voudrait plus missionnaire. Il a créé de nombreux groupes et commissions consultatives pour optimiser et moderniser le gouvernement de l'église. Des réformes importantes sont attendues, dont un remodelage de la curie. 9 mois après son élection, le pape Bergoglio incarne ainsi le renouvellement et la purification de l'Église.
Voilà, le pape François a donc touché les cœurs et les esprits de millions de personnes sur tous les continents et au sein même de cultures éloignées du catholicisme. Au fil de ses homélies quotidiennes, il aide les fidèles avec exigence et tendresse à suivre Jésus et à porter l'espérance au monde. Il est aujourd'hui considéré comme l'une des personnalités les plus marquantes de la planète. Le vent de réforme qu'il a fait souffler sur l'Église enthousiasme les uns ou bouscule les autres, mais il ne laisse personne indifférent. Surtout pas l'éditorialiste et écrivain Patrick de Planquette, qui revient sur les grands changements de ces 9 premiers mois de pontificat.
Ça a été un véritable électrochoc, non seulement à l'intérieur de l'Église, mais à l'extérieur, parce que le pape François a suscité un élan d'intérêt sans précédent de la part des milieux non chrétiens et non croyants dans le monde entier. Et profitant de cet immense intérêt, dû à son style très direct, très clair, très simple, très percutant, il en a usé pour poser des problèmes qui étaient les problèmes les plus urgents, les plus brûlants, et en premier lieu, l'examen de conscience, je dirais, des catholiques des pays riches, en particulier en France, par rapport à leurs responsabilités dans la nouvelle évangélisation d'une part, qu'est-ce qui évangélise, qu'est-ce qui n'évangélise pas, qu'est-ce qu'il faut décanter, laisser tomber, quelle page il faut tourner pour rendre au message, au témoignage évangélique toute son incandescence. Et puis d'autre part, la responsabilité des catholiques par rapport au système économique actuel et aux dégâts sociaux très graves, aux souffrances humaines très graves qu'ils engendrent sur l'ensemble des continents. Et là, il faut bien dire que le pape a eu des paroles fulgurantes que l'on retrouve dans l'exhortation apostolique « La joie de l'Évangile », qui est un texte majeur pour le XXIe siècle, et que ce texte doit être pris au sérieux par les catholiques dans l'ensemble des pays riches, et en particulier en France, parce qu'il faut qu'ils ouvrent les yeux sur la véritable nature de ce système économique que le pape François n'hésite pas à décrire avec une vigueur, une sévérité et une précision incontournable.
Alors justement, ce style percutant, ce style proche des gens qui enthousiasme beaucoup et beaucoup de catholiques en particulier, quelles conséquences justement a ce style du pape François sur les fidèles ?
Ce que saint Paul écrivait aux communautés chrétiennes du 1er siècle sur le pourtour de la Méditerranée était tout aussi bousculant quand il parlait aux Corinthiens ou aux Colossiens, c'était très bousculant. Et il leur disait la même chose que le pape François, secouez vos habitudes, sortez de vos habitudes de pensée, et surtout, comprenez que l'image que vous donnez conditionne l'efficacité de l'évangélisation.
Le pape a lancé plusieurs chantiers importants, a poursuivi des chantiers importants aussi lancés par son prédécesseur Benoît XVI. L'année qui vient sera importante. Comment ces chantiers vont-ils aboutir et se concrétiser en actes et en nouvelles mesures ?
Qu'il a indiqué sur le plan des principes durant sa premier semestre de pontificat vont maintenant engendrer des décisions concrètes, à la fois des réformes internes dans l'Église et en même temps un élan vers l'évangélisation, donc de nouvelles structures qu'il va falloir inventer pour porter cette évangélisation d'une société entièrement nouvelle. Il faut donc trouver des formes nouvelles, un langage nouveau et des structures nouvelles, quitte d'ailleurs à mettre au placard les structures anciennes qui ne correspondent plus à rien aujourd'hui. Et ça, il faut bien s'attendre à ce que François, qui est un homme du concret, qu'il a montré d'une manière extrêmement incarnée quand il était archevêque de Buenos Aires, bien en tant que pape, va nous surprendre certainement tous par des décisions non moins concrètes et qui ne feront certainement pas plaisir à tout le monde, mais tant mieux, alléluia.
L'écrivain et éditorialiste français Patrick de Plainquette, interrogé par Olivier Tosseri. Et à la veille de son 77e anniversaire, le pape François, grand amateur de football, a reçu une bonne nouvelle ce lundi. Son équipe favorite, le San Lorenzo de Buenos Aires, a été sacrée championne d'Argentine lors de la 19e et dernière journée du tournoi. Le pape François qui a confirmé ce lundi le cardinal canadien Mark Ouellet au poste clé de préfet de la Congrégation pour les évêques. Grand connaisseur de l'Amérique latine, efficace et rigoureux, proche de Benoît XVI, le cardinal Ouellet a été pendant 7 ans, jusqu'en 2010, archevêque de Québec. Le dicastère qu'il dirige a la charge de plus de 5000 évêques dans le monde. Il est secondé par un Brésilien, Monseigneur Montanari, nommé au mois d'octobre. Peu après son élection en mars, le souverain pontife avait maintenu à titre provisoire tout le gouvernement de la curie. Depuis lors, il a procédé à de nombreuses confirmations et à quelques mutations et nominations. Il a notamment confirmé deux autres postes clés pourvus par son prédécesseur, le cardinal Müller à la tête de la Congrégation pour la doctrine de la foi et le cardinal Filoni à la tête de la Congrégation pour l'évangélisation des peuples. En France, la conférence de citoyens sur la fin de vie a préconisé ce lundi la légalisation du suicide médicalement assisté, à condition que le patient puisse décider en pleine conscience. Mis sur pied par le Comité consultatif national d'éthique à la demande de François Hollande, le groupe de travail, composé de 18 citoyens, s'oppose à l'inscription de l'euthanasie dans la loi, mais se déclare favorable à des exceptions d'euthanasie dans des cas particuliers strictement encadrés. Le panel des citoyens se prononce par ailleurs pour le développement massif de l'accès aux soins palliatifs et évoque l'autorisation de la sédation en phase terminale. Ces 18 personnes ont été sélectionnées par l'Institut de sondage IFOP. Elles se sont réunies durant 3 week-ends à huis clos pour entendre les avis de diverses personnes qualifiées. Jean-Baptiste Cocagne a recueilli la réaction du directeur du mouvement Human Life International, Joseph Minet.
En fait, nous faisons partie maintenant d'une grande organisation européenne qui s'appelle l'Association pour la prévention de l'euthanasie européenne, qui vient d'être lancée maintenant au mois de novembre à Bruxelles. Et nous cherchons à travailler en France aussi pour vraiment faire savoir ce qui se passe avec l'euthanasie. Parce qu'en fait, on dit toujours que ce sont des cas extrêmes, des cas infimes, etc. Et on commence toujours par ça et ensuite on fait passer toute la vache, quoi. Nous disons toujours que les personnes les plus malades, les personnes qui ont le plus besoin, je dirais, de soins, sont ceux qui sont visés par l'euthanasie. Et il y a beaucoup de pression qui est mise sur ces personnes qui sont très malades ou qui sont dans des cas assez désespérés pour se tuer, pour se faire tuer. Et que ce n'est pas une réponse, je dirais, caritative, de compassion, mais vraiment une réponse de l'efficacité. On cherche à éliminer des problèmes au lieu de soulager les patients.
Et que répondez-vous aux familles qui souhaitent pratiquer l'euthanasie en pleine connaissance de cause ?
Je dirais qu'il faut vraiment chercher le bien de cette personne. Et que si le bien de cette personne, c'est de les faire mourir, c'est, je dirais, un manque d'humanité. Il faut aller vraiment dans le centre de ce problème et de chercher à comprendre les souffrances de cette personne et à les aider. Parce qu'il y a beaucoup de moyens d'aider les personnes, beaucoup de moyens modernes d'ailleurs, de soins palliatifs, etc. La souffrance généralement qui est la plus difficile, c'est la souffrance pas physique, mais les douleurs, je dirais, psychiques. Les gens qui sont abandonnés, qui sont laissés pour cause, etc. Et c'est ces personnes-là qui ont le plus besoin, je dirais, de l'aide de l'Église et de personnes de compassion.
Vous accompagnez certains patients directement ?
Oui. J'ai d'ailleurs dans ma propre famille une de mes sœurs qui va dans les hôpitaux justement pour aider les personnes qui sont dans la phase finale de leur vie. Et c'est très beau en fait de voir ces personnes qui sont sur le point de mourir. Si on vient vers eux avec de la compassion, on cherche à les aider pour faire ce dernier pas, c'est totalement à l'opposé de l'euthanasie. En fait, on accompagne ces personnes à la vie éternelle au lieu de les expédier dans la vie éternelle. Et ça fait toute la différence.
Aujourd'hui, ce qui est en vigueur en France, c'est la loi Leonetti. Que pensez-vous de cette loi ? La trouvez-vous pertinente ?
Je dirais que oui. En France, la situation est un peu sur le rasoir, non ? On ne sait pas exactement où on va tomber. Et je crois que c'est très important d'écouter les médecins. Généralement, en France, les associations des médecins ont toujours été contre tout ce qui était donner la mort. Que le médecin est vraiment la personne qui donne la vie, qui aide à guérir les patients, et que quand on change le rôle du médecin pour le faire l'ange de la mort, on change vraiment toute l'éthique de la médecine. Alors je crois qu'en France, la chose la plus importante, c'est d'écouter justement ce que disent les médecins et les associations des médecins, parce que généralement, c'est eux qui sont les plus concernés.
Joseph Minet, directeur d'un mouvement international pour la vie, interrogé par Jean-Baptiste Cocagne. Toujours en France, plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées dimanche à l'appel du mouvement La Manif pour tous. Des rassemblements ont eu lieu à Versailles, Blois et Montpellier. Beaucoup étaient venus en famille, accompagnés des enfants et grands-parents. Parmi les slogans inscrits sur les banderoles et les pancartes, « Stop à la familiophobie » et « Nos enfants n'appartiennent pas à l'État ». Les intervenants ont rappelé les motifs de mécontentement, la loi Taubira, la réduction du congé parental, la réforme du rythme scolaire, l'enseignement à l'école de la notion de genre, le matraquage fiscal de la famille ou encore la réforme des classes préparatoires. Ils ont dénoncé la volonté du gouvernement de déconstruire la famille, valeur refuge en cas de difficulté comme le handicap ou le chômage. Les résultats du Grenelle de la famille organisé par la Manif pour tous seront présentés le 11 janvier à Paris. Les évêques italiens sont préoccupés quant à eux par le climat actuel de tension sociale qui risque de dégénérer au moindre faux pas. Le mouvement des Forconi, les fourches, qui rassemblent des agriculteurs et des chauffeurs de poids lourds, mais aussi d'autres catégories excédées par l'austérité et la hausse des impôts, prévoit une opération de blocage de la circulation à Rome à partir de mercredi et jusqu'à ce que sa demande de nouvelles élections législatives soit satisfaite. Ce mouvement exprime un malaise profond et le président de la commission épiscopale pour le travail, la justice et la paix ne cachent pas son inquiétude. Interrogé sur notre antenne, Mgr Brigantini redoute une explosion du tissu social. Il est essentiel, selon lui, d'agir en amont et de ne pas stigmatiser le mouvement. Il faut, a-t-il dit, éviter d'affronter les manifestants de manière brutale pour ne pas créer des martyrs. Mgr Brigantini conseille à la classe politique d'agir de manière honnête et transparente et de se montrer solidaire avec la nation. Il n'est pas normal, selon lui, que la finance dicte sa loi. L'Europe ne s'est pas construite sur les banques, mais sur les cœurs. Dans la ville syrienne d'Alep, des raids de l'armée de l'air ont fait 76 morts, dont 28 enfants. Selon les Nations Unies, le nombre de Syriens réfugiés à l'étranger pourrait considérablement augmenter d'ici un an. Il passerait de près de 2,5 millions à plus de 4 millions. Quelque 660 000 Syriens seraient hébergés dans des camps de réfugiés, comme ceux au Liban où est mobilisée la Caritas. Cette année encore, l'organisation catholique a prévu des actions spéciales pour les fêtes. Des fêtes qui permettent notamment de renforcer la solidarité entre les différentes communautés. Georges Coury est le directeur de Caritas Liban. Il détaille le programme des célébrations.
Nous essayons de créer une ambiance un peu agréable et joyeuse pour ces réfugiés qui souffrent de pas mal de problèmes au niveau social, économique. Alors, pour les fêtes, nous organisons des manifestations, de cérémonies de fêtes, en ajoutant des distributions de l'eau alimentaire spéciale avec des douceurs spéciales de fêtes de la région et avec des jouets pour les enfants et des habits pour les vieux et les adultes.
Et qui sera sur place avec eux ?
Nos jeunes, qui sont presque 2-3 000, vont se retrouver dans les zones d'accueil ou bien auprès de familles. Il y a des relations familiales entre certaines familles syriennes et libanaises. Mais tout ça, avec la situation économique dans le Liban, ça rend la vie beaucoup plus difficile pour les Libanais comme pour les Syriens.
Qu'attendez-vous pendant ces fêtes ?
Nous espérons que autour des fêtes, bien que la majorité des réfugiés syriens soient de religion mixte, à notre façon, nous essayons de montrer la valeur humaine et notre solidarité et responsabilité civile vis-à-vis de ces réfugiés qui sont dans notre pays.
Et comment se sont passées les dernières fêtes en 2012 ?
2012, c'était encore beaucoup plus dur que maintenant. Avec les changements qui s'opèrent sur la scène internationale, il y a une petite éclaircie. Nous espérons que ça dure et que ça se développe dans le bon sens. Il y a un nouvel espoir qui se crée pour que ces réfugiés, pour ceux qui peuvent le faire, réintégrer leur communauté et revenir dans leur pays, nous espérons, parce que je ne sais pas jusqu'à quand le Liban pourrait tenir encore avec un nombre croissant de réfugiés et avec la présence d'autres étrangers installés au Liban, les Palestiniens, les Irakiens et tout, il nous en reste de toutes les crises. Le nombre de réfugiés dépasse les 50% de la population résidente au Liban.
Et donc on voit quand même qu'il y a une solidarité entre les chrétiens et les musulmans, surtout en ces périodes de fêtes.
S'il s'agit de parler de solidarité entre les gens qui observent et qui respectent les préceptes religieux, il y a toute la solidarité voulue. Mais s'il s'agit de groupes fondamentalistes, on doit regarder différemment le problème. Il n'y a pas de guerre de religion entre chrétiens et musulmans. Mais il y a des tendances politiques et des courants politiques habillés de religieux ou bien décorés de religieux qui rendent la situation difficile et alarmante.
Le directeur de Caritas Liban, Georges Coury, interrogé par Audrey Aradondi. La communauté catholique de Bombay est en émoi. Un crucifix qui remonte à la fin du 19e siècle a été vandalisé et profané dans un faubourg de la métropole indienne. Interrogé par l'agence de presse Asia News, le cardinal Oswald de Gracias, archevêque de Bombay, a affirmé que cet acte était non seulement une blessure infligée aux catholiques, mais une atteinte à l'esprit de tolérance, d'harmonie et de pluralisme qui a toujours caractérisé cette ville. Le crucifix était situé le long de la rue principale du quartier, près d'une église paroissiale. La statue de Jésus a été détachée de la croix et sauvagement démembrée. L'acte a été commis alors que 37 enfants se préparaient à recevoir leur première communion. Cet incident n'est pas isolé. Une église a été profanée au mois de septembre. Le cardinal Gracias a invité les fidèles à prier pour que la paix revienne dans la ville. Le rosaire sera récité jusqu'au 21 décembre au pied de la croix. L'archevêque de Bombay présidera une messe de réparation. Le cardinal Cor, président du Conseil pontifical pour la promotion de l'unité des chrétiens, poursuit sa visite en Russie jusqu'à jeudi. Au programme de son séjour figurent de nombreuses rencontres avec des représentants des églises catholiques et orthodoxes. Ce lundi, à Saint-Pétersbourg, il a donné une conférence sur Vatican II et l'écuménisme avant de visiter l'Académie orthodoxe de théologie. Mardi soir, il aura un entretien avec le métropolite Hilarion, président du département pour les relations ecclésiastiques extérieures du patriarcat de Moscou. Et mercredi, il sera sera reçu en audience par le patriarche Kirill, chef de l'Église orthodoxe russe, en la cathédrale du Christ Sauveur à Moscou. C'est la fin de cette émission. Je vous signale avant de terminer qu'à partir du 1er janvier 2014, les émissions francophones de Radio Vatican ne seront plus diffusées sur la chaîne satellitaire World Radio Network WRN. En revanche, vous pouvez toujours nous retrouver sur internet radiovaticana.va ainsi que sur Facebook Radio Vatican en français. Merci de nous avoir suivis.